C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Je vais commencer ce matin par ce texte dans la presse qui fait un peu le point sur les meurtres d'adolescents à Montréal. Certains nombres de choses qui étaient déjà connues, mais d'autres qui méritent d'être relevées, notamment concernant le meurtre de Thomas Trudel. La rumeur courait. Évidemment, je rappelle que personne n'a été arrêté. On connaît le contexte. Il rentre chez lui. C'est un dimanche soir. Il est tout près de la résidence familiale. Et il est abattu froidement. D'après ce que la presse raconte ce matin, il aurait été victime de ce qu'on appelle un « scoring ». On a entendu parler de ça parce qu'on n'a pas trouvé, par exemple, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas d'antécédents judiciaires. Thomas Trudel n'a rien dans son passé qui permet de le lier à des groupes, à des gangs, bien au contraire. Et on pense qu'il aurait été victime de ce phénomène, c'est-à-dire des gens qui sont choisis au hasard. Et de commettre un crime au hasard comme ça, te permet de marquer des points et de grandir et d'avoir une certaine réputation dans cet univers très diffus de gangs de rue. Bon. C'est assez épeurant en soi quand on y pense, là. Tu te promènes sur la rue, t'as pas de conflit, t'es choisi comme ça, et il semble que la conversation a été brève. Tu viens d'où? Réponse, je viens de JFP pour Joseph-François Perrault. Et c'est à partir de là qu'on l'a abattu. Donc, on fait le point dans cet article sur les trois meurtres d'adolescents. Bien sûr, Thomas Trudel. Et vous comprenez un peu la réaction. Puis il y a beaucoup de jeunes qui témoignent là-dedans, en disant entre autres qu'ils en ont assez de voir les politiciens se présenter avec des fleurs ou venir sur les lieux. C'est pas leur quartier. Ils savent pas de quoi ils parlent. Puis on est dans un environnement où il y a des frictions entre des jeunes de Saint-Léonard, Saint-Michel. Mohamed Mimoun, à qui on a parlé durant cette crise, répète, martèle, puis il a raison. Ce sont des jeunes qui ont des choses à dire et on devrait les écouter. On pourrait, je le cite, faire même le portrait d'une génération. Et puis on revient sur les deux autres meurtres, entre autres Janaïde Depoil-Bailey. C'est une chicane qui a dégénéré à l'école. Lui, il s'est fait tabasser avant d'être assassiné. Il était deux. L'autre était particulièrement ciblé, mais il s'est sauvé. Et puis la jeune Myriam Boundaoui, qui a été assassinée, tuée par balle, un conflit entre deux individus, deux familles, une histoire banale, si on veut, et serait menée à cet assassinat. Alors, encore là, pas d'arrestation. Les jeunes continuent de s'armer et il y a cette facilité. Puis il y a ce fou, vous avez vu vendredi, là, à Gatineau, dont l'appartement était en fait une usine de fabrication d'armes à feu. Et on comprend que dans ce cas-là, il y avait une volonté de vendre des armes, mais d'autres pensent aussi, c'était une hypothèse, ça reste à voir, là, est-ce qu'il avait l'intention de les utiliser lui-même? Donc, des armes puissantes, dans certains cas, des silencieux. Et puis, est arrivée en fin de semaine cette histoire à Québec. Donc, dans la nuit de samedi à dimanche, ça se passe au Dagobert, qui est un bar très connu à Québec. Donc, en fait, c'est samedi matin que ça s'est passé. Il n'y a pas de détails. On va résumer ça de la façon suivante. Il y a des images totales de la vidéo, une vingtaine de secondes, un petit peu plus, et on voit l'altercation des policiers de Québec avec ces jeunes noirs au sol, dans la neige. Puis il y a des gestes qu'on voit posés par les policiers qui ne peuvent pas faire autrement que de soulever non seulement l'interrogation, là, mais une forme d'indignation. T'sais, à coup de poing, la neige d'en face, puis une force qui, à première vue, puis je répète, ça dure 20 secondes, qui apparaît déraisonnable dans les circonstances. La police de Québec parle pas. Alors, quel est le contexte? Là, on lit un peu à travers les branches que t'es au Dagobert, puis ça se pogne à l'intérieur, il y en a qui sortent. La police est appelée sur les lieux. Et là, il y a eu l'altercation. Un jeune témoigne, il s'appelle le Pacifique Nio Cuisera. Il a 18 ans, puis c'est lui qui s'est retrouvé au sol avec trois policiers. Puis il y a la fameuse prise avec le genou, là, pour l'immobiliser. Puis là, évidemment, il se promène un peu, puis on le voit, visage tuméfié. Puis... tout le monde a réagi en disant « c'est épouvantable », avec raison. C'est épouvantable, on peut pas frapper le monde comme ça. Mais moi, j'aimerais savoir, là, au-delà du 20 secondes, ça dure 20 secondes. Puis je dis pas que ce qui vient avant justifie ce qui a été fait après. Mais j'aimerais voir le contexte. Puis la police de Québec refuse de nous dire pourquoi ça a dégénéré. Là, on a une version, celle des jeunes qui prétendent être sortis de façon calme de l'établissement et que là, ça a dégénéré. Un, poivre de Cayenne. Deux, les coups. Trois, des propos, j'allais dire, racistes, jusqu'à un certain point, là. On veut pas de ça à Québec. Retenez-vous-en à Montréal. Parle de gang de rue. Fait allusion à quoi? Du proxénétisme? On parle de... je sais pas de quoi on parle. Et pourquoi il y a eu cette altercation à l'intérieur du Dagobert? Et là, il y aura une enquête interne du service de police. Il y en a qui demandent une enquête indépendante. Et en plus, ce que je comprends en faisant le tour de la presse, Journal de Montréal ce matin, le jeune pacifique en question, la police serait allée le reconduire plus loin puis l'aurait laissé là en disant « débrouille-toi ». Alors, pas d'arrestation, pas d'entrave, c'est quoi l'affaire? Puis moi, je déplore que le service de police donne pas un minimum d'informations. Parce que t'es chez vous, tu regardes la courbe, puis on va l'examiner avec Elisabeth tantôt, partir sur les réseaux sociaux, tu dis « mais ça se peut pas que la police intervienne comme ça ». Ils voient bien qu'ils sont filmés. Puis malgré ça, ils posent ces gestes-là, c'est un peu spécial. Alors, c'est une arrestation avec force. À première vue, je dis bien à première vue, parce qu'on a un élément là, de 20 secondes d'une force qui apparaît tout à fait disproportionnée dans les circonstances. Mais qui sont ces jeunes? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Pourquoi ça a dégénéré? On va-tu apprendre? Je ne sais pas. Mais les 20 secondes qu'on voit, tu te dis, c'est pas comme ça, il faut que la police intervienne. Puis après ça, on se demande pourquoi il peut y avoir des relations tendues avec certains jeunes dont on vient de parler ici à Montréal, dans les quartiers les plus chauds. Alors voilà pour ça. Maintenant, je vais compléter le dossier. C'est dans Le Devoir ce matin qui a préparé depuis quelques jours une série de reportages sur les interventions policières et les gens qui ont été donc abattus lors de ces opérations, la plupart du temps des cas de santé mentale, des gens qui étaient armés, souvent couteaux, et qui étaient dangereux pour eux-mêmes et pour les autres. Alors, il y a une nouvelle formation qui va être présentée à l'École nationale de police aux patrouilleurs qui s'appelle « Réponse en état mental perturbé ». Et c'est justement comment, avant d'utiliser une arme, désamorcer la crise et pouvoir établir un contact avec la personne. Et pour compléter le dossier police, c'est Radio-Canada qui nous dit ce matin, êtes-vous surpris? Promesse électorale lors de la dernière municipale, on va embaucher 250 policiers de plus en 2023. Eh bien, non, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a des départs à la retraite, parce que tous les postes peuvent pas être comblés, parce que la liste de raisons est longue. Mais c'est pas vrai qu'on va augmenter les effectifs de 250 policiers plus. On va davantage chercher à combler les postes. Parlons COVID ce matin. D'abord, vous dire qu'il y a réunion aujourd'hui des ministres de la Santé du G7 face au nouveau variant Omicron. On a appris à découvrir la semaine dernière. Et deux choses qu'on retient. D'abord, il y a deux cas de confirmés à Ottawa, puis il va y en avoir un peu partout. On a vu des cas, notamment en Europe. On sait que vendredi, les frontières ont été fermées par le Canada avec une série de pays africains. On a parlé... bien sûr, de l'Afrique du Sud, du Botswana, mais ajoutons le Nigeria, le Mozambique, le Zimbabwe, le Lesotho, Namibie et d'autres. Là. Ça a été un peu la même politique ailleurs, pas du côté américain, mais ça pourrait arriver aujourd'hui. Donc, devant ce nouveau variant inconnu qui inquiète, le monde s'est replié, les frontières se sont fermées. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce variant? D'abord, pas grand-chose. Je faisais le tour des experts, là, au cours de la fin de semaine, je lisais là-dessus, puis le docteur Weiss va être avec nous. Mais la plupart s'entendent pour dire que, un, on n'aura pas la réponse véritablement à deux questions avant, possiblement, deux semaines. Première question, est-ce qu'il est plus virulent que les autres variants qu'on a connus? Et deux, comment réagissent les vaccins déjà administrés? Ce sont deux questions importantes. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Semble-t-il que les cas détectés montrent, pour les gens qui étaient déjà double vaccinés, une réponse par des symptômes légers, une toux, par exemple, qui peut durer quelques jours, un peu de fièvre. Il y en a d'autres qui craignent que le virus soit plus encore dangereux, parle d'une mutation à plusieurs niveaux. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire facilement ce matin, c'est que il y a beaucoup d'inconnus. Et devant l'inconnu, ben voyez un peu la réaction. Et c'est de fermer les frontières, même si plusieurs pensent que c'est pas nécessaire. L'autre élément sur lequel il faut insister, et je reviens sur ce que nous disait la semaine dernière Dr. Joanne Liu, parce que cette crise, on le voit bien avec ce variant là, qui arrive d'Afrique, l'espèce de déséquilibre de vaccination à travers le monde. Puis j'ai eu beaucoup de correspondances en fin de semaine, des gens du centre de recherche du CHUM qui m'ont écrit, il y a des médecins qui m'ont écrit, plusieurs personnes, qui me disent « Ouais, mais la troisième dose, c'est bien beau, là, mais il faut prendre les vaccins et vraiment faire une opération planétaire mieux organisée, que le Canada prenne un leadership. On verra à la réunion du G7 comment ça va évoluer. Mais si les pays à travers le monde n'atteignent pas des niveaux de vaccination élevés, on va vivre cette pandémie pendant encore très longtemps avec un certain nombre de hauts et de bas. Puis on l'a vu au Québec, on le voit avec l'augmentation des cas, mais le fait qu'on a quand même un niveau de protection très élevé, c'est pas une surcharge encore dans les hôpitaux. Alors, Dr. Liu insiste là-dessus en disant qu'on prend la volonté là, de vacciner d'abord le personnel de la santé, mais aussi, il faut prendre des vaccins et s'assurer puis qu'on investisse, que le Canada donne le ton pour obtenir des niveaux de vaccination à travers le monde. Alors vraiment, c'est une priorité. Sinon, on va vivre ça. Puis des gens qui préparent des vacances, puis j'en suis là, tu te dis, OK, quand on va quitter, je ne sais pas moi, fin décembre, janvier, février, je vous invite d'abord à vérifier les modalités dans le pays où vous vous rendez, parce que vous allez peut-être avoir des surprises sur les formulaires en ligne puis les preuves vaccinales et de tests que vous devez présenter. Et tout ça pour vous dire en même temps que on lisait en fin de semaine, je pense que c'était Radio-Canada, qui démontrait que les fameux plexiglas, puis le nettoyage des surfaces, là, ça donnait pas grand-chose. On l'a découvert en cours de route, là, depuis le début de cette pandémie, mais que les plexiglas, bon, c'est un peu théorique, mais c'est surtout, puis là-dessus, j'ai vu encore là plein de commentaires, toute la question des aérosols. Puis de se dire, là, pendant l'hiver, l'idée, c'est de ventiler votre maison le plus possible. Ouvrir les fenêtres quand vous pouvez, puis laisser l'air circuler. Puis ça, ça fait partie de l'arsenal. Malheureusement, on a souvent, notamment dans le cas des classes, là, puis des écoles en général, tenté d'atténuer le phénomène là, de la propagation par aérosol. Puis on le voit, là, dans les écoles primaires, où la vaccination commence à peine, bien qu'il y a des cas, puis c'est assez élevé. Un peu de politique en fin de semaine. D'abord, les libéraux se sont réunis. Dominique Anglade, la chef, sera avec nous ce matin et il y a une série de résolutions. Ce qu'on retient essentiellement, c'est que les libéraux décident de jouer la carte de l'environnement. Puis ce qu'ils nous disent, dans le fond, c'est que la CAQ n'est pas crédible puis Québec solidaire est extrémiste. Et nous, nous sommes des libéraux, des verts fédéralistes et on défend cette option avec une logique qui ne va pas à l'encontre du développement économique du Québec. C'est l'espèce d'endroit, là, le X qu'on a trouvé pour se placer sur la carte politique. Puis les jeunes libéraux qui veulent couper avec l'époque, par exemple, du docteur Barrette en santé, on parle de créer une espèce d'hydro-Québec de la santé pour que ce soit moins politisé. Alors, Mme Anglade sera avec nous en fin de semaine. Il y a évidemment l'affaire Montpetit qui a rebondi, son père qui dit que Marie Montpetit a été traitée de façon injuste, on le sait, expulsée pour des, semble-t-il, des accusations de harcèlement puis de comportement douteux. Alors, on se prépare pour les élections. Ça va venir quand même assez rapidement. Puis le PQ va changer de logo. Il est supposé rajeunir son image. Aussi, dans les autres nouvelles ce matin, ça, c'est intéressant. D'abord, il y a une vaste enquête sur une fraude à l'aide sociale. Dans la presse que vous retrouvez ça, il semble qu'il y a un réseau d'agences de placement qui aurait exploité des travailleurs là, qui débarquent au Québec, un peu partout à travers le monde, qui ne connaissent pas les lois. Et 18 employeurs qui ont été identifiés entre 2016 et 2019, on parle de centaines de travailleurs qui auraient touché des chèques d'aide sociale, étaient sur le BS tout en travaillant en dessous de la table. Puis il y en a qui se sont fait prendre. Puis vous allez me dire, ouais, il aurait dû le savoir, mais vous savez, quand tu arrives dans un pays, peut-être que tu ne comprends pas, là, peut-être une forme d'aveuglement volontaire, mais ce serait la fraude la plus importante jamais vue au Québec. Il y a des perquisitions qui ont été faites. Et vous avez le détail de ça ce matin. Et on va suivre de près avec Richard Châteauvert le procès de Ghislaine Maxwell, qui était, disons, la complice, la « madame », entre guillemets, du pédophile Jeffrey Epstein. Alors, ce procès s'ouvre à New York aujourd'hui devant jury. Et on sait qu'il est mort dans des circonstances assez nébuleuses en prison. Ce serait enlever la vie. Et on a toujours pensé qu'il avait en sa possession la liste de personnalités, puis il y a des noms qui circulent depuis le début, de ses proches, de ses amis, qui prenaient place à bord de son avion, le fameux Lolita Express. On parle de Bill Clinton, on parle de d'autres personnes, donc qui étaient très, très près de lui. Et est-ce que Mme Maxwell va collaborer? Le prince Andrew fait partie de ces gens-là. Alors, procès qui risque d'attirer l'attention. Va-t-elle... comme on dit, lancer des noms, va-t-elle garder le silence? Quelle sera sa stratégie? Ça commence aujourd'hui.
L'essentiel de Paul Arcan.
Disons que toute l'information autour de ce nouveau variant qu'on appelle maintenant Omicron a beaucoup évolué dans les derniers jours avec des décisions notamment prises par une série de pays d'interdire des vols. Par exemple, le Canada qui coupe les liaisons avec un certain nombre de pays africains, 8 au total, Botswana, Afrique du Sud, Namibie et d'autres. Des pays également qui ont suivi, les Pays-Bas, la Belgique, Royaume-Uni, avec des cas, Israël également. Donc, un certain nombre de questions qui se posent. Il y aura un point de presse à 13h aujourd'hui du ministre Christian Dubé et du directeur de la Santé publique, Dr Arruda. Mais le Dr Carl Weiss est avec nous ce matin pour nous éclairer. Dr Weiss, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, deux questions. Qu'est-ce qu'on sait sur ce variant? Qu'est-ce qu'on sait sur sa virulence? Et qu'est-ce qu'on sait de l'efficacité des vaccins pour le combattre?
Bon, alors, il y a encore beaucoup de questions où il n'y a pas de réponse. Premièrement, qu'est-ce qu'on sait de ce variant? Il origine en Afrique du Sud, probablement dans une région où il y avait des patients immunosupprimés. Vous savez que l'Afrique du Sud est malheureusement un pays où il y a beaucoup de cas de VIH. Et dans ce contexte-là, ce qui est arrivé, les patients VIH pas traités peuvent des fois garder le virus très, très longtemps, ce qui favorise l'apparition de mutations. C'est un virus qui a beaucoup muté et qui a eu aussi la capacité de remplacer le variant Delta en Afrique du Sud. Ça veut dire que, si vous voulez, sa capacité, on va parler de fitness, dont on appelle ça la capacité du virus à compétitionner avec les autres variants, est très bonne. Ça ne veut pas dire qu'il est plus virulent. Au contraire, il y a même certaines données qui disent que peut-être qu'il est moins virulent, ce qui ne serait pas totalement étonnant pour un virus qui est en train de s'adapter et d'augmenter sa transmissibilité. Donc, on sait que ça vient d'Afrique du Sud, qu'il a à peu près une trentaine de mutations, qu'il a déplacé le variant Delta en Afrique du Sud dans la province du Gauteng, qui est la province de Johannesburg, qui semble se transmettre assez facilement. Et dans les premiers rapports médicaux, on en a très peu qui viennent d'Afrique du Sud, on voit que les symptômes sont un peu différents de ce qu'on avait précédemment. Ça a touché beaucoup de jeunes, mais il faut savoir que l'Afrique du Sud est une population jeune, donc on n'a pas d'idée sur l'impact du variant dans des populations plus âgées. Et les gens se plaignaient surtout beaucoup de fatigue, d'atteinte de l'état général, etc. Est-ce que le vaccin fonctionne? Il va probablement fonctionner d'une certaine manière, c'est-à-dire on ne pourra pas retourner à un vaccin qui aura zéro efficacité, mais pour le savoir de façon réelle, surtout on parle des vaccins à ARN, il va falloir attendre quelques temps, voir comment les gens qui ont été vaccinés vont se comporter par rapport à ce variant-là. Mais je suis assez confiant que le vaccin devrait apporter une certaine protection, surtout contre la maladie sévère.
Bon, l'autre question, c'est la situation au Canada. On parle de deux cas qui ont été identifiés en Ontario. Avez-vous l'impression là qu'il va y avoir une espèce de spirale à venir là, de cas qui vont être confirmés?
Ben, la spirale, elle va certainement venir parce que vous savez que si vous avez deux cas, et puis c'est des cas surtout qui proviennent de patients qui étaient originaires du Nigeria. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'en réalité, ce variant-là est déjà probablement présent dans toute l'Afrique, une très grande partie de l'Afrique, sauf peut-être l'Afrique du Nord, et qu'il se propage de façon assez rapide. Vous avez vu que la Belgique a eu des cas. La Belgique a une longue relation avec le Congo. Et donc, déjà, si le Congo est atteint, ça veut dire que l'Afrique centrale et non plus l'Afrique australe a des cas. Et à ce moment-là, ça veut dire que la propagation du virus en Afrique est déjà assez importante. Et vu le nombre de trajets entre les pays africains et l'ensemble du reste de la planète, on a probablement déjà des cas au Canada. On a déjà des cas qui ont peut-être des signaux suspects, même au Québec. Signaux voulant dire que quand on fait des tests, on se demande est-ce que c'est un profil normal d'un test positif. Donc, tout ça peut dire que, oui, ce variant-là est déjà présent dans notre environnement. Vous savez, c'est le génie qui est sorti de la bouteille. Une fois qu'il est dehors, c'est difficile de le remettre dedans. Et vu le nombre de pays, donc vous avez vu qu'il y a des pays en Asie, il y a des pays au Moyen-Orient, il y a des pays en Europe, il y a des pays, maintenant il y a le Canada, je vous dirais, tout ça mis ensemble, ça veut dire qu'il y a probablement d'autres cas qui circulent dans notre environnement.
Est-ce que vous faites un lien entre l'arrivée de ces variants et le fait que la vaccination est inégale à travers le monde? Donc, les pays comme le Canada, l'Europe, taux de vaccination élevé, mais en Afrique, taux de vaccination bas. Est-ce qu'on fait vraiment un lien entre le niveau de vaccination et le développement des variants?
Il y a certainement un lien, mais qui n'est pas juste celui-là. Il faut comprendre que, par exemple, il y a quand même la moitié de la population qui a été vaccinée en Afrique du Sud. Ils ont utilisé beaucoup les vaccins d'AstraZeneca, mais il y a aussi des résistances à la vaccination dans beaucoup de pays dans le monde. Et donc, ça n'aide pas non plus. Mais très souvent, vous avez vu, hein, les variants portent des origines, soit Brésil, Inde, Afrique du Sud. Donc, ça dit que ça vient de pays qui sont des pays avec de grosses démographies, de très grandes populations, des zones parfois qui ont des problèmes au niveau socio-sanitaire, donc c'est-à-dire des régions pauvres de ces pays-là où les gens ont peu accès aux soins en général, et à ce moment-là avec des densités de population très élevées, et ça c'est des, si vous voulez, des conditions idéales pour favoriser l'émergence de ce genre de résistance-là, surtout que, comme je le disais précédemment, l'Afrique du Sud, où vous avez des populations comme des gens avec beaucoup de infectés par le virus du VIH, donc le virus du sida. Parfois, certains ne sont pas traités et à ce moment-là, les gens qui ont ces problèmes d'immunité, ce qui arrive, c'est qu'ils gardent le virus en eux pendant longtemps et ils peuvent excréter le virus longtemps. C'est-à-dire ils peuvent être porteurs du virus qui est là à bas bruit. Et ça favorise l'émergence de variants, de souches résistantes. On le sait avec d'autres virus. Par exemple, le virus du groupe herpès, c'est ce que ça fait dans des populations qui sont immunosupprimées comme ça. Donc c'est pas totalement, je dirais, inattendu. C'est clair que le fait de ne pas avoir vacciné tout le monde a certains impacts, mais il n'y a pas juste ça comme explication.
L'autre question que j'ai envie de vous poser ce matin, parce que je vois un peu le débat public au sujet de la troisième dose, là, notamment pour les travailleurs de la santé. Il y a des gens qui m'écrivent ou que je peux lire qui disent « Ouais, mais ce qui est prioritaire, c'est de, par exemple, s'assurer qu'il y a une distribution plus importante de vaccins dans des pays qui ont besoin d'être vaccinés, sinon on n'en viendra jamais à bout de cette pandémie. » Quel lien vous faites entre la troisième dose au Canada et le manque de vaccination ailleurs dans certains pays?
Bon, alors il n'y a pas de manque de vaccins premièrement sur la planète. Il y a des, si on prend tous les vaccins ensemble, des vaccins, il y en a beaucoup. Deuxièmement, c'est pas les quelques millions de doses qu'il y a au Canada qui vont changer quoi que ce soit sur la planète. Donc pratico-pratique, je pense que c'est un discours qui n'est pas vraiment un discours, pratico-pratique et utile. Il y a aussi des problèmes de logistique dans certains pays où les vaccins sont là, mais c'est difficile de les administrer. Puis il y a aussi une certaine résistance dans certains pays où on veut pas recevoir les vaccins. Donc, c'est certainement pas les quelques millions de doses qu'on devrait donner très rapidement aux travailleurs de la santé au Canada qui jouent un rôle quelconque dans le retard de la vaccination dans le reste de la planète. Le Canada, c'est 38 millions d'habitants et donc c'est quand même, en termes démographiques, une goutte d'eau à l'échelle planétaire et c'est certainement pas les quelques millions de doses qu'il y a au Canada qui vont changer quoi que ce soit dans la dose. Il faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de doses, beaucoup de vaccins qui ont été distribués de par le monde. On parle bien sûr des vaccins ARN, mais beaucoup de vaccins d'AstraZeneca AstraZeneca. Il y a des licences, par exemple, en Inde où le vaccin d'AstraZeneca est fabriqué. Il y a les vaccins russes, qui est le vaccin Sputnik, qui est un vaccin qui n'est pas mauvais non plus. Alors, il y a beaucoup de vaccins qui ont été distribués ici et là. Il y a les vaccins chinois qui sont moins bons, mais qui n'ont pas 0% d'efficacité, qui ont été aussi beaucoup donnés. Donc c'est vraiment pas une question, à ce moment-là, je dirais, éthique. La priorité pour le Canada, c'est de vacciner sa population et de la protéger adéquatement.
En terminant, et là, on y va avec, disons, une question pratico-pratique. Il y a des gens, la majorité des Québécois, là, vaccinés deux fois. Depuis les dernières semaines, il y a un certain, disons, assouplissement des mesures sanitaires. Là, le froid s'installe, on est à l'intérieur davantage, le temps des fêtes, les rencontres. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil aux Québécois là, qui sont doublement vaccinés, qui entendent ces nouvelles-là sur un nouveau variant et sur peut-être une efficacité moindre des vaccins?
Bon, alors, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que les doublement vaccinés ont quand même une grande protection puisque leur risque d'être hospitalisé est 15 fois moins que les non vaccinés. Deuxièmement, ce qu'on doit dire, c'est que les gens qui ont besoin de leur troisième dose, donc toutes les personnes en haut de 70 ans, les gens qui ont des problèmes de santé, etc., allez chercher votre troisième dose le plus rapidement possible. La job, par contre, du gouvernement là-dedans, c'est de l'administrer rapidement et de pas faire la fine bouche comme on l'a vu à certains cas où des gens avaient 5 mois après leur deuxième dose et on leur a refusé leur troisième dose. Après ça, c'est d'aller vacciner rapidement les populations les plus à risque actuellement, donc les travailleurs de la santé, mais aussi tous les autres groupes plus jeunes qui ont des problèmes de santé potentiels, parce que plus vous allez augmenter votre couverture avant la période des fêtes, et on le voit, moins vous allez avoir d'hospitalisation. Ce qui nous sauve actuellement au Québec, c'est qu'une grosse partie de la population est doublement vaccinée. Ça a un impact important sur le nombre de nouvelles hospitalisations. Mais après ça, il faut garder aussi les mesures habituelles, c'est-à-dire que la vaccination, ça protège, mais c'est pas absolu. Les vaccins sont pas efficaces à 100%. Et ce qu'il faut garder, donc, c'est le masque quand on est dans des zones qui sont des zones intérieures. Il faut donc garder aussi certaines mesures de distanciation sociale quand on le peut. Mais une fois qu'on a fait ça, ben, c'est sûr qu'on peut pas réduire le risque à zéro. On est revenu, heureusement, à une vie plus normale. Et ce qu'on veut, c'est on veut garder cette vie plus normale. Et c'est de garder toutes ces mesures en place et de continuer les efforts, notamment en ce qui concerne la vaccination, pour pouvoir avoir une période des fêtes qui soit acceptable pour tout le monde et surtout qu'on n'ait pas un prix à payer au mois de janvier.
Merci, Dr. Weiss. Bonne journée.
Vous aussi.
Au revoir, Dr. Carl Weiss, qui est microbiologiste, spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital général juif de Montréal.
L'essentiel de Paul Arcand. L'essentiel de Paul Arcand.
Alors, le Parti libéral du Québec s'est recadré en fin de semaine, donc un congrès où des orientations ont été prises, notamment sur l'environnement, la santé. La chef du parti est avec nous, Dominique Anglade. Madame Anglade, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
La santé, vous dites, dans le fond, on est plus réaliste que Québec solidaire, puis on est plus sérieux que la CAQ quand on détermine nos cibles, nos objectifs. À chaque fois que je parle à des politiciens, politiciennes, c'est toujours la même question. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui nous écoutent ce matin, là? Quand vous dites on va avoir des objectifs plus élevés que la CAQ, puis plus réalistes que les solidaires.
Mais concrètement parlant, on a proposé un projet de société éco. Puis on dit on va combiner l'écologie puis l'économie. Ce que ça veut dire, ça, c'est que la priorité en haut, c'est évidemment la lutte au changement climatique. Mais pour y arriver, il va falloir qu'on arrive à décarboniser l'économie. Ça veut dire qu'on arrête d'utiliser les 55% d'énergie qui sont des hydrocarbures. L'électrification va nous permettre de régler une partie du problème, mais ça ne pourra pas régler les problèmes dans la grosse industrie, dans le transport lourd, dans les bateaux, dans le ferroviaire. L'hydrogène vert est vraiment une opportunité que l'on a à saisir, qui non seulement va nous aider à combattre les changements climatiques, mais va créer de la richesse aussi d'un point de vue du gouvernement du Québec.
Donc, mais je repose ma question autrement. Quel effort vous demandez aux Québécois? Quels efforts allez-vous demander aux Québécois pour atteindre ce que vous souhaitez?
Mais c'est sûr que toute la question de la consommation d'énergie. On doit mieux consommer notre électricité, par exemple. On consomme énormément d'électricité au Québec comme individu. Donc, il va falloir qu'on rénove, qu'on bâtisse différemment, qu'on rééquipe les bâtisses, les maisons, nos institutions. Tout ça, il va falloir qu'on fasse un gros travail par rapport à ça. Et cette économie d'énergie-là va nous permettre de faire de l'hydrogène et va nous permettre de remplacer le diesel, si vous voulez.
OK, je formule ma question encore une fois. Est-ce que, pour vous, ça passe par convaincre ou par des moyens qui sont, par exemple, des tarifs d'hydroélectricité plus élevés, des taxes additionnelles sur les sources, disons, comme l'essence. Bref, un arsenal de mesures là qui touche directement le citoyen pour qu'il change ses habitudes.
Bien, ça passe nécessairement par des mesures qui vont être qui vont toucher l'individu. L'idée, c'est pas d'aller taxer tout le monde, mais la question de l'écofiscalité, moi, je pense qu'on est capable de se dire des incitatifs pour tous ceux qui sont vraiment, qui comprennent puis qui opèrent le virage, puis pour les autres, bien, il n'y a pas d'incitatif à ce moment-là. Donc, il va y avoir un arsenal que l'on va présenter dans la prochaine année, justement. Pour
mais je donne un exemple. Je voyais en fin de semaine, là, un bond sans précédent de la popularité des VUS et autres camions légers au Québec. Donc, le parc de ces VUS est en hausse. Comment vous allez réduire ça?
Bien, justement, je pense qu'il va falloir qu'on ait de gros incitatifs pour que les gens délaissent ça, mais également, par exemple, augmenter le coût. Combien ça coûte polluer? Il faut que ça coûte davantage polluer, puis il faut que les gens se disent, bien, il y a d'autres mécanismes.
Okay, mais ce que vous dites aux gens qui ont un VUS, là, dans les prochaines années, vous allez payer plus.
Bien, ce que je dis aux gens qui ont des VUS, c'est que je souhaite qu'ils reconsidèrent leur choix. Puis dans l'arsenal que l'on va présenter de mesures, il va falloir qu'on puisse parler de ça. Mais il va falloir aussi que l'on puisse parler de l'effort que le gouvernement va faire. L'Assemblée nationale est encore chauffée par les hydrocarbures. L'Assemblée nationale est chauffée par le pétrole de l'Alberta. Est-ce que c'est normal? Donc, tout le monde va devoir mettre la main à la pâte. Et je pense que quand le citoyen regarde son gouvernement qui met la main à la pâte, ça, tout le monde qui contribue, bien, il se dit, OK, ça va être quoi, contribution là-dedans. Et je pense que les Québécois sont prêts à entendre ça, en autant que tout le monde décide d'aller dans la même direction.
Mais là, les Québécois se disent, mais tout le monde a pris le virage vert, le gouvernement a pris le virage vert, la CAQ a pris le Québec solidaire a pris le virage vert. Puis vous êtes à le PQ aussi, tout le monde a l'air vert.
Bien, l'histoire de prendre le virage vert, c'est une chose, mais comment vous le faites? On peut bien dire on va avoir des cibles, etc., pour l'environnement, mais il faut que ton économie soutienne ça. Nous, ce que l'on dit, c'est qu'on va combiner réellement avec le projet éco l'économie et l'environnement. Puis cette économie-là, bien, il faut que ce soit en matière d'énergie avec l'hydrogène vert, il faut que ce soit l'électrification des transports, il faut que ce soit les redevances sur l'eau. C'est pas normal qu'au Québec, on ait si peu de redevances sur notre eau, alors qu'à côté, en Ontario, ils en ont six fois plus. Donc, il faut qu'on... Tout doit être considéré. Puis là, la question des changements climatiques, là, ce n'est pas uniquement le ministère de l'Environnement. C'est la santé, c'est l'éducation, c'est les ressources naturelles. Donc, il faut que ce soit porté aussi par le chef du gouvernement.
En parlant de la santé, les militants ont voté pour la création de ce qu'on pourrait appeler un Hydro-Québec de la santé. Êtes-vous d'accord avec ça?
Ben, je pense qu'il y a du bon dans la proposition, mais je peux pas vous dire, oh, demain matin, on va faire ça. Pourquoi? Parce que ça se fait ailleurs, dans d'autres juridictions, mais ça nécessite un énorme changement. Ça peut favoriser la stabilité de notre système de santé, puis la stabilité du financement de notre système de santé, mais c'est pas quelque chose que tu peux faire sur un coin de table. C'est pas quelque chose que tu peux faire à l'intérieur d'un an. Donc, je pense que les réflexions doivent se poursuivre. J'entends le message de mes militants, puis je trouve qu'ils nous poussent à aller plus loin dans notre réflexion, mais il y a encore du travail à faire dans
okay.
la réflexion.
Il y a combien de membres au Parti libéral?
Environ 20 000 membres. 20 000 membres, puis depuis un an, il y a une augmentation, du nombre de notre membership.
Il n'y a pas si longtemps, vous avez rendu hommage à Gaëtan Barrette quand il l'a quitté. En fin de semaine, les militants ont dit les formules Barrette de politique de la santé, on n'en veut pas. Ça veut dire que c'est une rupture avec son mode de gestion.
Bien, je pense d'abord qu'il faut saluer le travail qu'a fait Gaëtan Barrette dans les dernières années, puis son engagement politique. Mais je pense qu'il est évident que lorsqu'on regarde le système de santé aujourd'hui, quand la CAQ a pris le pouvoir, il y avait 400 000 personnes qui attendaient un médecin de famille. Aujourd'hui, il y en a 1,4 million. Il y a des urgences aujourd'hui qui sont fermées, ce qui n'existait pas avant au Québec. Ça s'est passé sous la CAQ. Je pense qu'il y a une grande réflexion à faire en matière de notre système de santé aujourd'hui sur comment est-ce qu'on veut fonctionner, puis quel type de collaboration on veut avoir. On pourra pas régler le problème en
jusqu'à quel point vous voulez vous démarquer de Philippe Couillard, puis de l'administration libérale précédente. Parce qu'à chaque fois qu'on aborde une question, on vous ramène les coupures en santé, on vous ramène les centres de soins. Jusqu'à quel point vous dites, là, moi, je ne suis plus tributaire de ce qu'ils ont décidé?
Bien, je pense que j'ai été très claire dans le message que j'ai envoyé de dire qu'on devait opérer un virage important. Ça, je l'ai dit et je l'assume pleinement. Il y a des choses qu'on a fait qui ont été bien faites. Il y a des choses que moi, j'aurais fait différemment. Je ne suis pas Philippe Couillard, je suis Dominique Anglade, puis... ce que j'apporte, c'est cette vision pour la société moderne et une autre manière de faire les choses, c'est clair.
OK. Deux ou trois questions rapides. Vous avez commenté en fin de semaine l'arrestation brutale à Québec. Là. Il y a une enquête. Vous souhaitez quoi comme une enquête? Là, il y a une enquête du service de police de Québec. Vous voulez une enquête indépendante pure?
Oui. Oui, une enquête indépendante pure. Vous avez vu les images comme moi, elles sont plus que troublantes. C'est choquant.
Mais ça dure 20 secondes. On se dit, qu'est-ce qui est arrivé avant?
Ben c'est ça, c'est ça qu'on ne sait pas. Alors, vous ne le savez pas, je ne le sais pas non plus. Les images sont choquantes, mais on ne peut pas conclure au bout du compte. Sauf qu'on peut se dire quand même que quand quelqu'un est immobilisé, il n'y a pas de raison d'être aussi agressif. Mais pour moi, une enquête indépendante vient justement nous sortir de la police qui essaie de protéger la police puis qui essaie de faire quelque chose sur la police. Je pense que si on veut avoir cette relation avec la population de confiance, une enquête indépendante est la bonne chose à faire.
À vous sauver votre leadership en fin de semaine.
Je pense que mon leadership est bien en selle. Bien en
selle. L'avez-vous sauvé?
Oh, c'est plus que sauvé. J'avais 800 militants. Ils étaient contents d'être là. J'ai reçu tellement de messages positifs, constructifs, puis des gens qui sont emballés. Des gens qui étaient là depuis des années, là, de vieux militants là, du Parti libéral qui sont venus, qui ont dit « Hey, tu me redonnes tellement le goût de m'impliquer. » Alors ça, c'est extrêmement positif.
Madame Anglade, merci d'être venue ce matin. Dominique Anglade, la chef du Parti libéral du Québec.
L'essentiel de Paul Arcan.
Je reviens sur cette violence gratuite qui touche malheureusement plusieurs arrondissements de Montréal, plusieurs quartiers, des jeunes en particulier. On a beaucoup parlé de ces coups de feu, de ces balles, du meurtre de trois adolescents, Thomas Trudel, Jeannette Depoil-Bailey, Myriam Boundaoui. La presse revient ce matin et on avait entendu parler de ce phénomène, mais disons, on met le projecteur sur ce qu'on appelle du « scoring ». S'en prendre à quelqu'un, voire même le tuer pour marquer des points. J'en parle avec Mohamed Mimoun, à qui on a déjà parlé, intervenant jeunesse et coordonnateur pour le Forum jeunesse de Saint-Michel. Monsieur Mimoun, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
C'est assez épeurant de se dire que des jeunes tuent d'autres jeunes pour marquer des points.
Ben, malheureusement, c'est ça qu'on a voulu dire au début de notre intervention, c'est-à-dire on tire pour un oui et pour un non. C'est-à-dire que c'est devenu comme un jeu vidéo. C'est-à-dire on fait une guerre de territoire, deux groupes se ont un conflit ensemble. Parfois, l'origine du conflit il est vraiment futile, ça n'a aucune importance pour un adulte. Et pour un jeune, oui. Et ça devient une guerre entre les deux. Et malheureusement, ça conduit jusqu'à tuer quelqu'un de l'autre groupe. Juste parce que de notre groupe ou qui appartient au territoire du groupe. Et probablement, c'est ça qui arrive actuellement.
Bon, ce qu'on peut lire ce matin, entre autres, c'est le fait d'appartenir à une école, bref, de fréquenter une école, ça peut devenir comme un enjeu. Depuis le meurtre de Thomas Trudel, qu'est-ce que les jeunes vous disent? Ça fait déjà quelques jours, quelques semaines. Quelle est la réaction de voir, d'un côté, la gratuité du geste puis l'espèce de nervosité, j'imagine, qui doit s'emparer d'eux?
Et malheureusement, nous, on a connu deux, trois événements avant la mort de Trudel qui nous a conduit à être vigilants parce qu'il y avait justement des jeunes qui sont venus dans le parc François Perrault et qui ont tiré aveuglement sur des groupes de jeunes et qui sont repartis. Heureusement, il n'y avait pas mort d'homme, mais malheureusement, c'est là où on a compris la gravité des choses. On est au courant de cette histoire depuis quelque temps, mais là, on a compris que c'est rendu un peu plus loin. Avec la mort de Thomas, ben, on a compris qu'on est rendu un peu plus loin dans ce genre de choses. Et ce que les jeunes répètent, ben, c'est vraiment qu'ils ont peur. Ils ont peur qu'ils deviennent la prochaine victime juste parce qu'ils fréquentent une école ou un parc. Parce que, n'oubliez pas, le parc s'appelle François Perrault et l'école s'appelle François Perrault. Alors parfois, tu peux ne pas fréquenter l'école, mais tu viens de ce parc-là, ou tu fréquentes ce parc-là. Alors si quelqu'un te demande, est-ce que tu viens de François Perrault ou tu fréquentes François Perrault, ben, tu peux répondre le parc, mais les autres vont comprendre l'école. Alors il y a ça aussi comme confusion par rapport à la situation.
Est-ce que vous sentez, depuis, je dirais, ces événements tragiques, qu'il y a une certaine volonté de développer, d'investir dans le communautaire. Là, c'est un mot qui est très large, mais en même temps, de prendre conscience des besoins de ces jeunes. Il y a l'aspect policier, mais il y a l'aspect aussi, quel type d'intervention. Je lisais dans cet article de la presse des commentaires ce matin de jeunes qui ont un local, qui arrivent à se regrouper, mais c'est encore extrêmement difficile. Sentez-vous là, qu'il y a cette prise de conscience des décideurs?
Moi, j'attends un peu avant de dire ce que je pense. Actuellement, moi, ce que je veux, c'est vraiment qu'on soit plus écouté. Moi, j'ai parlé du côté, oui, matériel, financier, le financement de milieux communautaires. mais aussi reconnaître l'expertise du milieu communautaire. Ça veut qu'il soit plus écouté par rapport à ces réalités-là et qu'on n'arrive pas à des situations beaucoup plus graves pour qu'on se demande qu'est-ce qui se passe dans un quartier. Nous, malheureusement, on est les témoins d'évolution des choses. Cette histoire de violence n'a pas commencé aujourd'hui, elle a commencé depuis quelques mois, voire quelques années. Et malheureusement, on a essayé d'attirer l'attention des gens responsables par rapport à ça, mais on n'a pas été écoutés. Donc moi, actuellement, je suis frustré plus par rapport à ça que par rapport aux moyens, parce que les moyens, on me dit qu'on n'a pas de local, on ne peut pas financer tout le monde, et j'espère qu'un jour, ils vont le faire. Parce que ça, c'est un investissement, ce n'est pas une dépense. Ça va permettre d'épargner beaucoup, beaucoup d'autres problèmes. Ça va faire épargner beaucoup, beaucoup, beaucoup de vie, en fait, à la fin.
Si vous aviez une chose à dire aux décideurs qui vous écoutent ce matin, une chose, vous dites ça, là, mettez ça dans votre liste de priorités, c'est ça qu'il faut faire d'abord et avant tout.
Vraiment, écouter les gens qui travaillent sur le terrain pour les pistes de solutions. Parce qu'il y a beaucoup de pistes qu'on peut suivre si on veut trouver une solution, mais il faut vraiment être quelqu'un de terrain pour le savoir.
Monsieur Mimoun, merci d'avoir pris le temps ce matin. Bonne journée à vous.
Merci à vous.
Au revoir. Mohamed Mimoun est intervenant jeunesse et coordonnateur pour le Forum jeunesse de Saint-Michel.
L'essentiel de Paul Arcan. L'essentiel de Paul Arcan.
Bon, la trêve syndicale pour le syndicat des employés d'entrepôt devait prendre fin à 17 heures aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on travaillait. Et en cas d'échec des pourparlers, ben, on aurait pu repartir en grève générale limitée. Bref, la nouvelle est tombée au cours des dernières heures. Il y a une entente de principe qui a été conclue, dit-on, vers 4h30 ce matin. Et l'entente devra être approuvée par les syndiqués. Michel Gratton est porte-parole à la table de négociation. Monsieur Gratton, bonjour.
Monsieur Arcan, bonjour.
Alors, dites-nous comment ça s'est passé à 4h30 pour qu'on puisse enfin avoir une entente de principe.
Il a fallu faire entendre raison à tout le monde, les deux parties, le mon bord et l'autre, de commencer à se faire un peu plus confiance, on va dire ça comme ça. Une période de négociation, on sait quand ça commence, mais on sait pas quand ça finit. Alors, on a commencé hier matin vers les 9h, puis ça s'est conclu à 4h30 ce matin.
Est-ce que vous la recommandez aux membres?
Absolument. Absolument. Je ne présenterai pas une offre que je ne recommanderais pas et le comité de négo de même.
OK. Je vous demanderai pas les détails de l'offre, là, c'est bien sûr, là, vous allez les présenter, mais vous êtes confiant que les membres vont l'accepter? Là.
Ben, je suis confiant. On le souhaite. Si on le recommande, on le souhaite. On pense que c'est une entente correcte. Puis on ne voulait pas, surtout pas prendre les Québécois en otage à ce Noël ici. On était vraiment hors de notre idée.
OK. L'autre chose, on a travaillé la semaine dernière, le travail continue aujourd'hui dans les entrepôts. Les tablettes sont vides. Je sais qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça, là. Mais avez-vous l'impression qu'on va être capable de regarnir assez rapidement les tablettes des succursales, par exemple?
Je suis confiant. Je suis confiant. C'est sûr que les trois journées où il y a eu absence, ça a créé un retard d'approvisionnement, ça a créé un manque de temps supplémentaire qui était obligatoire. Maintenant, on va encourager nos membres à travailler, recommencer le travail. C'est ce qu'on a fait ce matin depuis 4h30. Là. Je voulais vous appeler avant, mais malheureusement, on était sur le téléphone pour expliquer aux gens qu'il fallait qu'ils rentrent travailler au lieu d'être en grève ce matin.
OK, alors ça veut dire que le travail continue, puis vous pensez que ça va prendre une certaine période, mais disons, de regarnir les succursales, c'est réaliste.
Bon, c'est réaliste, peut-être pas à 100%, là, mais on va tout faire pour que ça arrive.
OK, merci M. Gratton.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci M. Arcan.
Merci à vous aussi. Michel Gratton est donc celui qui est à la table de négo, et là les membres vont voter, mais entre-temps le travail continue, ce qui est bien sûr une bonne nouvelle pour la période des fêtes.
L'essentiel de Paul Arcan.